Bonjour et bienvenue sur Radio B 90 FM pour notre chronique du passé. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous, bonjour Martine. Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup évoqué Napoléon et là, nous restons encore avec lui.
Oui, pour nous intéresser au quotidien des Bressans de l'époque napoléonienne. Qui était-il? Comment vivait-il? Quelle était leur espérance de vie?
Pour répondre à ces questions, nous disposons d'un document.
D'un ouvrage intitulé « Statistiques du département de l'Ain » de 720 pages, publié en 1808.
Qui a rédigé cet ouvrage?
L'auteur officiel est le préfet Charles de Bossy, le préfet bien-aimé que nous avons évoqué en avril. Mais les articles ont été rédigés par les érudits de la Société d'émulation de l'Ain, présidée par le préfet.
Nous allons feuilleter ensemble cet ouvrage, réédité en 1978. Nous nous intéressons au département tel qu'il était il y a deux siècles. Martine, pourquoi avons-nous choisi une telle période?
Pour plusieurs raisons. Le pays a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon le mois dernier. Nous disposons de nombreux rapports rédigés pour la statistique. Et depuis les débuts de Napoléon Bonaparte, la France et le département ont connu quatre régimes, la royauté, la révolution, le consulat et l'empire.
Une période de paix relative s'installe vers 1803-1808 et l'ouvrage permet de connaître l'état de nos contrées après les tumultes.
Les articles ont été rédigés par des érudits, comme nous l'avons dit, loin du langage administratif, avec des termes poétiques inattendus. Il faut avouer qu'il y a quelques redondances, des démonstrations trop détaillées, mais le résultat est une mine d'informations pour tout historien.
Nous feuilletons ensemble ce document. D'abord une citation géographique pour donner la tonalité du texte, comme cette balade de l'Ain au Rhône par le Haut-Bugey.
Je cite « Les bords escarpés de l'Ain, son encaissement dans des montagnes taillées à pic, la disparition du Rhône dans un abîme, sa bruyante sortie des cavernes qu'il a parcourues, le fracas de son choc avec la fougueuse Valserine, la course rapide de leurs flots écumants, leurs lits profonds creusés dans le roc vif, des cascades remarquables, des grottes, des scissures énormes, autant de sujets d'admiration pour ces majestueuses solitudes. »
Après la géographie physique, chaque commune est décrite au sein de son canton. Voici quelques extraits pour Bourg, la préfecture.
6 grandes routes y aboutissent. 3 offrent encore de belles avenues de peupliers qui se dégradent. Les autres étaient plantées en frênes, noyers, châtaigniers, platanes et autres arbres. Mais la négligence et le défaut d'entretien ont anéanti ces grandes et utiles plantations. Les facultés sont nécessairement médiocres dans une ville sans commerce, sans manufacture et purement agricole. Notons que Bourg compte 7 417 habitants en 1806.
Pour désigner les hommes et les femmes, l'ouvrage utilise de curieux termes.
Oui, et nous ne les utiliserons qu'une seule fois pour dire que l'Ain compte 151 030 mâles et 153 204 femelles. Les femmes sont plus nombreuses car beaucoup sont veuves de soldats morts dans les guerres. Mais l'écart se resserre car les garçons sont plus nombreux à naître depuis quelques années.
L'Ain a retrouvé sa vitalité et sa prospérité grâce au régime devenu stable. Il a gagné beaucoup d'habitants en quelques années pour ces raisons et d'autres.
On peut par exemple, la région de Nantua a bénéficié d'une immigration venue de Saint-Claude après l'incendie de cette ville en 1799. Et la Dombes a vu arriver des Lyonnais qui ont fui les violences de la grande ville. Enfin, les levées de militaires sont moins fortes.
L'étude des mariages est intéressante et dévoile un paradoxe.
Le nombre de mariages ne diminue pas, mais le nombre d'hommes mariés a diminué. Les hommes se sont mariés massivement pour échapper à la conscription. Cette disposition a été rapidement supprimée, si bien que désormais, des hommes mariés sont présents aux armées et absents de l'Ain. L'augmentation des mariages suit l'accroissement de la population.
Quelle est l'espérance de vie dans les pays de l'Inde ?
Les centenaires, hommes ou femmes, ce n'est pas précisé. Ils étaient 18 en 1789 et 11 en 1801, plus aucun en 1806. L'espérance de vie ne dépasse guère les 60 ans. Les plus de 60 ans représentent 6,5% de la population, contre près de 25% aujourd'hui. À l'époque, on peut bien sûr espérer aller au-delà. Si, je cite, « on a appris à respirer un air sans ressort dans la braise marécageuse ou dans la dombe aux fièvres périodiques épidémiques. On vit mieux en pays de montagne. »
Au cours de sa visite dans l'Ain en avril 1805, Napoléon avait été interpellé à propos de la conscription, l'engagement dans les armées. Nous l'avons évoqué en janvier. Les rapports confirment les arguments du docteur Volpré de Villars.
Après le départ de leur fils, les pères sont souvent obligés de les remplacer dans les labours. En redoublant de travail, ils s'épuisent et succombent. Plus loin, nous lisons qu'il y a plus de mariages en ville qu'à la campagne, car pour le service militaire, eh bien, les habitants des villes se font plus souvent remplacer que ceux des campagnes.
Nous avons découvert une autre conséquence de la Révolution, un enrichissement pour certains, bénéfique aux domestiques.
Ainsi, de 1789 à 1801, le nombre de propriétaires a augmenté grâce à un contexte particulier. La vente partielle des biens des émigrés, l'aliénation des biens de l'Église et d'autres biens nationaux, la facilité de les acquérir par des valeurs presque nulles, les assignats. Durant cette même période, le nombre de domestiques aurait dû baisser à cause de l'émigration de nombreux prêtres et propriétaires. Mais l'aisance acquise par beaucoup de nouveaux propriétaires en a maintenu l'équilibre.
Nous avons évoqué les domestiques. Passons maintenant d'un extrême à l'autre de la société.
Le nombre de propriétaires vivant uniquement du produit de leurs biens sont en augmentation de 167 depuis 1801. Et ceux vivant uniquement d'un revenu d'argent sont en augmentation de 50. À l'inverse, il y a peu de mendiants, selon les critères de l'époque, environ 1 pour 1000 habitants.
Il nous reste à relever la population qui émigre d'une saison à l'autre.
Par exemple, les hommes du Revermont viennent faire les moissons en Bresse, où ils sont payés en blé ou en céréales. Dans la région de Nantua, beaucoup d'hommes, près d'un sur huit, partent pendant 3 mois pour aller peigner le chanvre dans les régions de production plus au nord. À l'inverse, il y a toujours un grand nombre d'enfants « étrangers », entre guillemets « étrangers », accueillis en nourrice, mais 1 sur 5 décède. En plus, les hôpitaux de Lyon placent 776 enfants démunis de 7 à 16 ans dans l'Ain.
Globalement, le département compte 56 habitants au kilomètre carré, contre 112 aujourd'hui. En le parcourant à cheval, le préfet Bossy a été surpris de ne pas rencontrer de ville.
Eh oui, l'Ain est essentiellement un pays de hameaux regroupant quelques habitations. 1467 hameaux pour 414 communes et sans le Pays de Gex.
Nous pouvons imaginer que ce préfet Bossy a aimé parcourir les paysages de l'Ain, aller à la rencontre de ses habitants. Quelle était leur morale, pour reprendre une expression d'aujourd'hui ?
Nous sommes en 1805-1808. Napoléon règne sur une Europe apaisée, à défaut d'être en paix, dont les richesses sont puisées et dirigées vers la France. L'économie est repartie. De nombreux projets d'amélioration sont lancés dans les départements, comme l'entretien des routes. Mais il reste peu d'années à vivre avant la chute de Napoléon et de l'Empire.
Il est dit que les gens de l'Ain sont facilement identifiables en fonction de leur région d'habitation. Comment est décrit le Bressan ?
Je cite. « Le Bressan est lourdement constitué, sans être musculeux. Il doit ses formes arrondies à un tissu graisseux abondant. Indolent, il se livre avec lenteur, mais avec constance, aux travaux du corps. Il répugne à ceux de l'esprit. Il est attaché au lieu qu'ils l'ont vu naître et c'est dans son champ qu'il cultive encore à la manière de ses pères qu'il trouve le bonheur et l'univers.
Par contre, le rédacteur du chapitre « Population » a été subjugué par les femmes de la petite ville de Morvel.
Ah oui Rémi, vous voulez en savoir plus ? Allez, je cite. « Les femmes y ont un air de fraîcheur qu'elles conservent jusque dans un âge avancé. Elles ont la peau fine et délicate et un teint fleuri. Elles ont souvent des formes parfaites que leur habillement et la manière de se coiffer font très bien ressortir. Elles travaillent peu à la terre. Elles n'exposent pas leur teint à l'ardeur du soleil, ce qui est la cause de leur extrême blancheur. »
Elles ne participent pas aux travaux des champs ?
Oh, très peu. La terre est fertile dans cette région et cela donne de l'aisance et les femmes en bénéficient. Ailleurs, elles sont présentes dans les champs pour les semailles, l'entretien des cultures ou les récoltes. La partie la plus importante des récoltes est réservée à la vente pour avoir l'argent nécessaire pour les dépenses de la maison et le fermage.
Les femmes sont au fourneau. Que mangeait-on à l'époque ?
Eh bien, tout simplement les productions de la ferme. On mange beaucoup de pain. Du pain fait avec de la farine de froment, de maïs, de fèves et d'orge, mélangé en grains et moulus ensemble. Comme nous l'avons dit, on n'utilise pour soi que le froment de faible qualité, peu vendable. Pareillement pour la consommation de viande. Le porc familial est une truie âgée qui a eu plusieurs gestations. Il en est de même pour une vache en fin d'utilité, avant d'être totalement épuisée. En général, on mange peu de viande et pas d'œufs, que l'on réserve à la vente.
On mange aussi du maïs, Martine ?
Oui, sous la forme de gaudes, des grains de maïs grillés, puis moulus. Je cite le rapport. On mange les gaudes en bouillie le matin, en forme de soupe, jusqu'au temps des chaleurs. Ce qui en reste est conservé pour le soir dans des écuelles où elles prennent une consistance. On les fait alors chauffer sur le grill et on les mange comme un gâteau.
On mange aussi du sarrasin, le blé noir que connaissaient nos anciens.
Les grains sont moulus et la farine est utilisée pour des gaufres, mangées à tous les repas. Parfois, on ajoute au-dessus du fromage fort et on les fait griller.
Après ces bonnes notes culinaires, nous terminons avec une perle d'archives. Un courrier du maire de Lagneux au citoyen préfet.
Alors, lecture de sa lettre. Lagneux, le 22 Vendémiaire en 10. Le maire de la ville de Lagneux, au citoyen Auzin, préfet du département. Citoyen préfet, je viens réclamer un autre exemplaire de la statistique générale afin de pouvoir y transcrire les réponses aux questions qu'elle contient. Daignez, je vous prie, le faire remettre au porteur de ma lettre. Celui que j'ai reçu, par un événement imprévu, n'est pas présentable. Il est même indéchiffrable dans plusieurs endroits. Il était presque rempli lorsque des chats, dans une nuit, ont fait verser dessus et à côté la boîte à l'encre qui a taché plusieurs feuilles d'une manière illisible. Salut et respect, signé François Faure.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée car une pluie de petits morceaux d'hommes commence à tomber. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté, du fast-food hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci, on expédie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie car il n'a plus de soucis. Et puis le lendemain matin, on l'appelle de Miami.
Hello, Farmer Thompson. We got your cat here. Yes, we don't know how he got back down, but he's definitely here. Would you mind coming and picking him up, please?
And the cat came back the very next day. The cat came back. He wouldn't stay away. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours.